Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien dans la 59e émission de Bonjour Turbine. Alors ce soir c'est une émission un peu spéciale puisque nous sommes en train d'enregistrer actuellement au Café des Images. Je vous le prouve tout de suite avec le public qui est très très chaud ce soir. Voilà, je vous l'avais dit. Énormément de spectateurs qui viennent de voir le documentaire Low-Tech et ça tombe bien puisque c'est le sujet de cette émission ce soir. Alors justement l'idée, comme on le disait tout à l'heure en introduction, c'est pas de prêcher des convaincus, mais plutôt de, dans cette émission radio, dans cette post-rencontre séance, vous prouver qu'il est possible de passer à l'action pour changer de paradigme et notamment via la démarche Low-Tech. Alors pour ce faire, nous allons accueillir plusieurs témoignages d'associations, de citoyens, de citoyennes qui développent des projets sur les territoires normands, mais pas que. Et notre premier invité dans cette émission, c'est un fervent défenseur de la low-tech. Il s'appelle Ilan Vermeeren et il travaille au Dôme.
Bonsoir Thomas.
N'hésitez pas à l'applaudir aussi, tant qu'à faire. Alors, donc Ilan, toi tu travailles au Dôme en tant que chargé de mission réseau régional low-tech. Alors autant légitimer tout de suite ta présence, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ta mission? Et est-ce que ça veut aussi dire qu'il y a un réseau low-tech normand qui existe aujourd'hui?
Alors, excellente question Thomas. En fait, la Normandie, c'est un des territoires les plus en avance sur la low-tech en France. Alors, en fait, il y a eu des dispositifs d'appel à projets qui ont permis de, d'identifier un territoire très riche, une soixantaine de projets au total. Et donc, en fait, ce tissu justifie l'existence d'une mission d'animation d'un réseau régional. Donc, le poste que j'occupe actuellement au Dôme sur un financement de l'ADEME. Donc, on anime tout ce monde-là qui est très divers, entre des associations, des entreprises, des institutions, des financeurs, des communicants. Et donc on porte un peu tout cet écosystème pour porter la Normandie dans la démarche low-tech le plus loin possible.
Justement, on va comprendre tout au long de l'émission qu'il y a quand même une cartographie qui commence à naître sur la démarche low-tech en Normandie et tu en seras le relais, l'ambassadeur. Alors Ilan, on vient de voir ce documentaire, enfin vous venez de voir ce documentaire qui se veut quand même plutôt positif et avec cette idée d'une démarche low-tech où il y a des problèmes, on recherche des solutions. Alors notamment le problème de pression sur les ressources, donc on pense à un système plus sobre en ressources ou en utilisation de ressources secondaires. On a aussi évoqué l'hyper-sophistication, qui est une grosse problématique aujourd'hui. Donc là, on tendrait avec la démarche à une simplification, une appropriation aussi de l'objet. Et on retrouve aussi une destruction de liens sociaux avec le temps qui passe. Et là, on est, avec la démarche low-tech, sur une démarche plutôt collaborative, participative. Est-ce que tu confirmes plus ou moins cette définition? Est-ce que tu as des choses à exprimer sur ces 3-4 objectifs de la low-tech?
Alors, c'est une très bonne entrée en matière. En fait, on peut éventuellement définir la low-tech selon 3 piliers. Donc c'est à la fois la durabilité forte, c'est-à-dire comment on construit un modèle qui est véritablement durable. En fait, on utilise beaucoup le mot durable, mais malheureusement la réalité des ressources est que on est quand même assez contraint et le monde tel qu'il est construit n'est pas durable sur le long terme. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est celui de la résilience collective, c'est comment on retisse des liens au sein des associations entre les individus pour être plus solide face au choc, comment on s'entraide. Et le troisième volet, c'est celui de la transformation culturelle. En fait, on sent qu'avec la low-tech, on a un fil directeur qui permet de découvrir de nouveaux imaginaires. Et donc, c'est là où la low-tech est très intéressante.
Et alors, justement, ce terme low-tech, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail pour globaliser la démarche. Moi, j'ai l'impression que ça me semble, à titre perso, compliqué. On a le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est réservé aux ingénieurs. Alors, est-ce que tu peux me déconstruire cette idée préconçue que j'ai?
Alors, ça part très mal. En fait, je suis moi-même ingénieur. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que on le voit, c'est que la low-tech, en fait, elle s'adresse à tout le monde. En fait, chacun peut mettre en place cette démarche. En fait, on questionne ses propres besoins, on essaie de redécouvrir les techniques que le système industriel a externalisées, sur lesquelles on n'a plus la main. Et donc en fait, la low-tech s'adresse vraiment au plus grand nombre et a cette vocation d'être vraiment inclusive de comment on se réapproprie les techniques et surtout de façon conviviale.
Eh bien, merci beaucoup. Alors justement, pour cette entrée en matière, on va accueillir David. Alors David, qui est un habitué de l'émission Bonjour Turbine, il va nous lire une rubrique qu'il a rédigée. On va voir comment est-ce qu'il a compris la démarche low-tech. J'ai l'impression qu'il va un petit peu exagérer sur sa situation. Je crois bien, en tout cas. Allez, jingle.
Je viens aujourd'hui vous parler de tout l'intérêt de la low-tech, la basse consommation et réparation à des fins écologiques et financières pour lutter notamment contre le gaspillage. Tout d'abord, on est tous d'accord là-dessus, on pollue et on consomme trop. Donc il est temps de réagir et de redevenir raisonnable, car la fuite en avant technologique nous mène tout droit dans le mur. C'est pourquoi des sages comme le petit Robert, Bernard Pivot, ont créé la low-tech. Car le développement de la technique à tout va n'est pas toujours signe de progrès. Ces savants se sont d'abord penchés sur le savon. Ils ont consulté les archives de la mer de nuit et ont constaté que le savon en bloc type savon de Marseille consommait moins que la lessive en poudre. Puis ils ont analysé le savon liquide avec le pousse-mousse qui est à piston, qui lui est plus pratique mais moins économique et dont l'impact sur l'environnement est moindre. Mais en matière de low-tech, il faut également compter sur le low-cost, le moindre coût. Et là, les choses se gâtent car la consommation d'eau entre en ligne de compte. Au final, s'il était possible de réutiliser l'eau des toilettes filtrée, ce serait un pis-aller et même carrément une vache à lait pour le consommateur, une source d'économie appréciable. Car la démarche low-tech ne s'arrête pas là. Savez-vous combien de centaines de litres d'eau nous coûte un rôti de bœuf ? Je ne veux pas vous priver de viande, mais moi j'y ai renoncé depuis que mon chat lui-même a arrêté de manger les souris. Je mange désormais des légumes que je cultive dans un pot à fleurs. Quant à l'engrais, il m'est livré directement par les pigeons qui viennent sur mon balcon. Des techniques agricoles durables et ancestrales. Comme on le voit, la low-tech est à la fois utile et accessible, ce qui correspond à sa stricte définition. Personnellement, je me déplace qu'à bicyclette, sans moteur électrique et sans personne sur le porte-bagages. Je dépense beaucoup moins d'énergie qu'Armstrong, par exemple, qui développait dans le Galibier environ 5000 watts. Pour la lumière, c'est pareil. Les ampoules basse consommation, les LEDs, c'est dépassé. Mais attention à ne pas confondre les circuits courts avec les courts-circuits. J'ai fait réparer la vieille lampe à pétrole qui avait explosé à la tête de mon grand-père. Vive la low-tech. J'ai acheté de la cire pour faire des bougies. Savez-vous, quand la lumière du soleil s'éteindra, qu'on aura juste 8 minutes pour allumer toutes les chandelles. Simplifions aussi les moyens de communication. Au lieu de téléphoner à votre voisin, sortez sur votre balcon, faites des signes comme autant des sémaphores, envoyez des signaux de fumée comme les Indiens. Si la caserne des pompiers est à moins de 3 km, c'est possible. Pensez aussi à utiliser le vieux téléphone portable. J'ai fait réparer le mien parce qu'il avait eu une rupture des filaments croisés. Le mieux, paraît-il, c'est celui qui ferme un clapet, à qui on ferme le clapet, je voulais dire. Autrement, réparez, faites réparer, reprisez vos chaussettes, tricotez vos bas de laine et lavez-vous même la vaisselle, car d'après Bernard Pivot, l'eau de la vaisselle est un bon bouillon de culture. Réduisons la complexité technologique, réutilisons la brouette en ville, beaucoup plus facile à garer, car elle permet de promener aussi votre grand-mère plus facilement que dans un caddie volé chez Carrefour. Voilà, le soir, mon cerveau passe en basse consommation, ce qui explique qu'il n'y a pas de chute.
Merci David, applaudissements du public quand même. Et justement, je vous propose de lancer le jingle le temps que notre prochaine invitée Vanessa nous rejoigne en plateau. Oh, Vanessa. Donc tu es là pour représenter le projet Horizon, mais pas que, parce que aussi que en tant que citoyenne, tu as radicalement changé de mode de vie il y a quelques années. Mais avant d'en venir à ça, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce projet Horizon ?
Oui, bonjour à tous. Alors projet Horizon, un projet sur Caen basé depuis 3 ans, associatif pour réfléchir à comment réduire son impact sur son environnement. Alors pour cela, on incite les citoyens à venir à nos côtés, à agir par des chantiers participatifs ou dans la création d'événements afin de sensibiliser le plus large public.
Et finalement, ce n'était pas ton quotidien il y a quelques années. Tu me racontais en préparation de cette émission que tu vivais dans un pavillon avec deux voitures, une pour toi et ton mari, et vos deux beaux enfants. Et presque du jour au lendemain, il y a quand même eu un petit peu de temps, vous arrivez aujourd'hui à vivre dans un bateau.
Alors oui, il y a eu une remise en question, on dirait, dans tout ça. Je n'arrive jamais à répondre à la question s'il y a eu un fait. Je ne pense pas. C'est tout simplement un jour une envie d'abord de se retrouver, l'essentiel. Et ensuite, il y a eu une reconstruction, des rencontres, une introspection, des réponses, et aujourd'hui on en est là.
Et alors justement, comment se passe cette démarche avec l'idée quand même d'avoir un habitat plutôt minimaliste, justement ?
Justement, ce côté vraiment, ça par contre ça a été dès le début, une envie de moins de choses pour vivre mieux, plus simplement, moins d'encombrement autour de nous.
Et alors justement, tu me parlais aussi de la notion de temps. En fait, c'est quelque chose aussi, la démarche low-tech, c'est aussi prendre le temps de comprendre les outils, les objets qu'on utilise, réfléchir à l'énergie qu'on consomme. Comment est-ce que vous avez trouvé ce temps, justement ?
Eh bien, on a tout plaqué.
Ah ! Oh ! Le public est étonné, dis donc.
Et oui, alors du coup, en étant plus raisonnable après par la suite, donc d'abord tout plaquer et en plus réfléchir comment trouver en effet ce temps et reconstruire une vie différente. Mais on a passé par tout plaquer, en effet, on a fait la crise de la quarantaine un peu plus tôt que prévu. Et 40 ans arrivent, je sais pas ce qui va se passer. Mais du coup, trouver du temps dans sa vie pour se la réapproprier, réfléchir... Donc, trouver du temps dans sa vie, pour nous, ça passe par moins de travail, plus de temps en famille, et plus de formation, d'écoute, de relations, d'échanges, et tout ça pour se tourner, en effet, vers la low-tech.
Et la question, c'est est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui ou pas ?
Je dirais oui.
C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Alors justement là, je vais m'adresser à vous deux. On l'a vu dans le documentaire, ça paraît plus simple de tendre vers la démarche low-tech quand on habite dans une maison en campagne ou dans un bateau. Comment est-ce qu'on fait quand on vit dans un appartement ?
Et je m'adresse à vous deux.
Hélène, t'habites dans un appartement ?
En fait, c'est une très bonne question. Alors en fait, il y a pas mal de projets qui sont déjà lancés en fait sur comment on se réapproprie la low-tech dans l'habitat. Je pense notamment au projet Biosphère 5 maintenant en fait, qui s'intéresse justement à comment on applique la démarche low-tech quand on habite dans un appart de 15 mètres carrés à Paris. Et donc en fait, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire en fait, que ce soit il y a des gens qui sont capables d'installer des toilettes sèches, on peut faire soi-même ses produits d'entretien pour éviter de polluer, de mettre des produits très chimiques pour stabiliser les shampoings par exemple. Donc en fait, il y a déjà pas mal d'opportunités et je vous invite à aller regarder ce projet Biosphère, ils cherchent des candidats. Et donc en fait, il y a plein de missions que vous pouvez déjà tester sur comment on applique la low-tech chez soi.
Et alors, peut-être une réponse, Vanessa, de ton côté ?
On peut en effet rajouter toute notre vie extérieure avec du coup vivre plus en collectivité, mutualisation, par exemple aussi sur le déplacement, qu'on vive en appartement. Alors c'est plus facile en ville, on est d'accord, mais malheureusement en plus c'est en ville qu'on se déplace le plus souvent en voiture, on ne va pas refaire les chiffres. Mais avec quelques éléments de plus.
Et alors, du coup, toujours dans cette idée de déconstruire un petit peu l'idée des low-tech, est-ce qu'on s'imagine une viabilité économique justement de la low-tech ? Et est-ce qu'il est possible d'y intégrer un procédé industriel si on veut que ça change assez rapidement, ce paradigme ?
Je crois qu'Ilan, il saura exactement vous dire, mais sur le territoire, je vais te laisser vraiment développer, il existe déjà des choses de ce type.
Alors dis-nous tout, Ilan.
En fait, le monde industriel s'intéresse énormément à la démarche low-tech. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en fait, au sein de ces réseaux, notamment chez les PME. La low-tech, c'est aussi une façon de dérisquer sa chaîne d'approvisionnement. En fait, j'entends que en fait, les chaînes d'approvisionnement en fait, sont très mondialisées, on a besoin de beaucoup de matériaux aux coins du globe, etc. Et en fait, dans un monde qui est de plus en plus stressé, de plus en plus décousu et sous tension, c'est intéressant en fait, d'aller dans une démarche un peu plus sobre en termes de technologie, et ça intéresse beaucoup les industriels à ce sujet. On peut notamment citer l'exemple de la PME de Sean Rodry Familial, CPM Industrie, du côté du Havre, donc qui s'est vraiment positionné en fait, sur ces aspects de comment on repense les chaînes de valeur. Un exemple que vous avez vu dans le film, c'est celui de l'usine distribuée qu'on voit avec la gazelle dans le film, donc cette espèce d'usine d'assemblage décentralisée avec des plans distribués open source. En fait, c'est des choses qui intéressent énormément le monde industriel et, à mon avis, c'est le sens de l'histoire et l'ère du temps. Donc il y a tout à fait des opportunités économiques de ce côté-là.
Alors merci à vous deux. Alors peut-être avant de challenger le public sur un petit quiz, est-ce qu'il y a des questions à poser à Vanessa ou à Ilan ? On laisse la place à une question pour le moment, puisque après il y aura d'autres questions. Alors dans le public, vous pouvez lever la main si vous avez une question à poser. Visiblement, tout le monde est d'accord avec ce que vous avez dit, c'est super. Ah, nous avons une question en bas, visiblement. Alors, c'est Juliana qui va passer le micro.
Est-ce que, Ilan, tu peux repréciser comment on participe au projet Biosphère ?
Il y a un appel à candidature sur leur site. Donc, il faut taper Biosphère 5 Urbain. Et en fait, vous devriez trouver déjà en fait, la liste des missions qui sont attendues. Donc, je crois qu'il y a l'élevage de larves de mouches soldats noirs pour le compost urbain. Il y a d'autres exemples. Donc, il faut aller voir sur le site. Et donc, il y a déjà plein de choses à tester. Donc, Biosphère.
Alors nous allons passer justement à un petit quiz, on va voir si vous avez été attentif pendant le documentaire ou alors si vous faites preuve d'une culture générale accrue. Alors il me faudrait deux personnes au hasard dans le public qui seraient ok pour répondre à ces questions. Et pendant ce temps-là, tu peux lancer le petit jingle qui va mettre un peu l'ambiance. Ouais, on est en mode qui veut gagner des millions. Alors j'ai trois questions à poser. Qui veut ? Est-ce qu'on a des volontaires autour de cette table, en face de cette table plutôt ? Moi, je crois que j'en ai identifié deux, hein, Juliana, vu qu'il n'y a pas de volontaire. Allez, là-bas, là, on a Iris et Vincent. C'est complètement arbitraire. Hein. Vous pouvez rester assis. Alors, concentrez-vous bien. Donc, c'est évidemment Ilan, le spécialiste, qui va répondre aux questions. Combien y a-t-il de métaux différents dans un smartphone ? Ha ha ! J'ai entendu 60 par là. La réponse est 60. On valide sur 60. Ah, attention, là-bas, on a une réponse aussi.
60.
Alors, Ilan, est-ce que tu confirmes ou non ?
Chaque smartphone est différent, mais effectivement, l'ordre de grandeur est le bon. Il y a plus de 60 métaux dans certains smartphones. Donc, c'est très chargé.
Bravo ! Ce public est impiégeable. Deuxième question. Quelle est la part de plastique recyclé dans le monde ? Alors là, franchement, bonne chance. On a essayé de corser. C'est entre 0 et 100, si ça peut vous aider. Ah, en haut, on a une réponse. J'ai entendu 1%. Qui dit plus ? 2% là-bas ? Non, plus que ça. 14. Eh bien, la réponse est, Ilan, tu peux nous la donner ?
Alors, en fait, la réponse réelle, c'est effectivement pas loin de 2%. Et en fait, si vous voulez un chiffre plus précis, en fait, la quantité, c'est plutôt de l'ordre à 7 à 8. Mais en fait, la grande majorité, il est transformé en thermodurcissable. Donc, une fois que ça devient un thermodurcissable, on l'utilise qu'une seule fois, il durcit et il devient un déchet à tout jamais. Donc, la vraie réponse, c'est 2% qui peut être recyclé à l'infini.
Bravo Charlotte, je ne sais pas qui est Charlotte, mais bravo à elle. Alors, troisième question, concentrez-vous bien s'il vous plaît. Combien de kilos faut-il traiter de minerais pour produire 1 kilo de cuivre en 2024 ? Alors, on offre deux places de cinéma à celui ou celle qui a la réponse exacte. Là, je m'engage auprès du Café des Images. Alors, est-ce qu'on a un semblant de réponse quelque part ? Oui, une idée ? 159 ici, une tonne ici.
Pour un...
Ouais, pour un kilo. Et alors la réponse, cher Ilan ?
Alors effectivement, l'ordre de grandeur est le bon. En fait, on peut pas vraiment définir de quantité totale parce que ça dépend de la mine. Il y a des mines plus ou moins chargées ou d'autres. Mais effectivement, l'ordre de grandeur peut aller jusqu'à 250 kg de minerai qu'on doit broyer, traiter, réduire, traiter chimiquement, traiter thermiquement pour produire 1 kg de cuivre à la fin. Donc voilà pour les impacts environnementaux.
Bravo, cher public, vous venez de ne pas gagner deux places de cinéma. Alors, peut-être, justement, si on fait une cartographie de la Normandie, est-ce qu'on a des acteurs qui travaillent sur les matériaux, Ilan ?
Alors, l'exemple le plus simple, c'est l'éco-construction. En fait, il y a un réseau normand de l'éco-construction. Donc, c'est celui qui s'appuie sur le bois, la terre, la paille, le chanvre. Un exemple de projet qu'on a au sein du réseau Lotec, c'est celui de la paille hachée insufflée. En fait, quand on isole des combres, en fait, on peut souffler de l'ouate de cellulose. C'est un procédé qui est assez polluant parce que c'est de la pâte à papier qu'on traite chimiquement. Et en fait, on peut aussi le faire avec de la paille hachée. Donc, c'est un des projets qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est une alternative plus simple. Un exemple beaucoup plus intéressant, c'est celui du mycélium. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de mycélium. En fait, on est capable de faire des panneaux d'isolant à partir de paille colonisée par un champignon. En fait, on a un bloc de paille qui devient tout blanc et qui devient un excellent isolant et qui a fortiori à carbone positif. Donc c'est très intéressant et plein d'innovations.
Et ça, c'est un projet qui est en cours en Normandie. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Non, c'est en off, ça.
Alors oui, effectivement, ça a lieu en Normandie, plus précisément aux Nouvelles Coordonnées. Et j'en profite pour faire l'annonce. C'est probablement le prochain lieu d'accueil du week-end des communautés low-tech nationales qui aura lieu en Normandie. Donc la Normandie... La Normandie se confirme comme hotspot national pour la low-tech.
C'est un lobbyiste, en fait, finalement, pour la low-tech, j'ai l'impression. Alors, eh bien, on peut remercier Vanessa aussi. Merci beaucoup d'être passée pour nous parler du projet Horizon. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée qui est étudiant et qui s'appelle Karianne et qui est dans les starting blocks. Cher Karianne, donc toi tu es en formation ingénierie des matériaux à l'ENSI de Caen. Et justement dans le documentaire ça a rapidement été évoqué la notion de low-tech dans les programmes scolaires. La première question c'est est-ce que l'ENSI Caen s'y est mis ou pas ?
Pour être très franc, pas énormément. La low-tech a pu être abordée dans certains cours en particulier... une proposition de sujet en sciences des humanités, par exemple. Mais oui, c'est un sujet qui est très peu répandu à l'école. Et en témoigne ce soir, on n'a pas réussi à faire venir beaucoup de personnes de l'école. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là. Et c'est un challenge.
Donc j'espère que le lobbyiste à tes côtés a bien écouté ce que tu viens de dire. Alors justement, tu es surtout ici pour nous parler d'une expérience que tu as vécue l'année dernière. Donc c'était la semaine des alternatives low-tech. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement, en quoi ça consiste ?
Oui. Alors la semaine des alternatives low-tech, ça s'organise depuis plusieurs années. Ça a été créé par un collectif qui s'appelle Ingénieurs Engagés. Alors contrairement à son nom, c'est ouvert à tout le monde. Et donc l'objectif c'est de se retrouver à un endroit, que ce soit un écolieu, une ressourcerie durant une semaine et de pouvoir participer à des ateliers qui sont pratiques et théoriques autour de la low-tech. On a pu avoir un exemple dans le documentaire avec les éoliennes pigottes où l'année dernière on a pu faire la restauration d'une éolienne en recréant des pales en bois avec une ancienne méthode Et on a aussi une initiation à la soudure pour faire des rocket stoves, qui sont des poêles à inertie, donc des poêles à bois qui, où la flambée se fait très rapidement et le fait on brûle le bois très rapidement et il y a une masse qui va garder la chaleur et la retransmettre pendant plusieurs heures. Et en atelier théorique, on a pu avoir par exemple la fresque des low-tech qui se développe de plus en plus, des ateliers de lecture collective, aussi des tables rondes. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on peut se retrouver entre personnes intéressées, voire passionnées par la low-tech, et on peut se projeter dans un avenir qui nous semble intéressant.
Un avenir qui nous semble ovni aussi, peut-être quelque part. Alors, justement, je crois qu'il y a des personnes qui apparaissaient dans le documentaire qui aussi ont fait partie de cette semaine. Et alors, savez-vous, cher public, que l'année prochaine, l'événement se tiendra en... En Normandie, vous êtes déjà au courant, mais peut-être que tu peux nous en parler, Kerianne, quand même.
Oui, je représente l'association pour cette soirée. Il y a un projet de faire une semaine des low-tech en Normandie à l'écolieu des Amandiers, qui se trouve pas très loin de Rouen. Et normalement, elle va se dérouler début juillet, et nous sommes en recherche de personnes pour nous aider, notamment du côté de l'organisation, mais aussi pour animer des ateliers, que ce soit pratique ou théorique. Donc si vous avez des compétences que vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Vous pouvez les contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, en tapant « Semaine des alternatives low-tech » ou « SALT » S-A-L-T, ou avec l'adresse SALT @ ingénieur avec un S tiret engagé avec un S .org, ou me retrouver à la fin de la séance.
C'est peut-être plus simple que de retenir l'adresse mail, je pense.
Oui.
En tout cas, on se fera le relais quand on diffusera le podcast de toutes ces informations, toutes les sources qu'on cite aujourd'hui. Alors merci beaucoup Kerianne. Est-ce que tu avais un mot à ajouter ou c'est bon pour toi?
C'est bon pour moi.
Eh bien très bien, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et tu vas pouvoir laisser ta place au papy de la bande de Bonjour Turbine qui est venu pousser un coup de gueule.
Je suis énervé, agacé. En tant qu'individu et en tant que grand-père, qui voit partir en sucette un monde si beau, si unique.
Bon, dis-nous, Alain, qu'est-ce qui t'arrive ?
J'en ai ras le béret de voir et entendre le service public de l'audiovisuel, qui produit de magnifiques émissions, des documentaires extraordinaires, des débats citoyens intelligents comme Grand Bien Vous Fasse, La Terre au Carré, CO2 Mon Amour sur France Inter, C'est ce soir, c'est dans l'air sur France 5, Racine et des ailes, Échappée belle sur France 3. Envoyé spécial sur France 2, etc., qui montre la beauté, dénonce les incohérences, et qui, juste avant ou juste après, montre ou font entendre des publicités qui encouragent l'inverse, comme ces spots pour les voitures high-tech à seulement 499 euros par mois. Un exemple parmi tant d'autres, et je ne parle pas de la malbouffe, ou des gens de l'énergie, ou d'autres encore.
Ok, merci Alain, c'est bon, tu peux retourner à ta place.
Je suis en colère contre l'éducation nationale. Mon ancienne maison, qui, constat scientifique et preuve à l'appui, dénonce les méfaits des écrans dès le plus jeune âge et prône leurs limitations en temps, selon l'âge, et qui introduit tablettes, tableaux numériques, les ENT, espaces numériques de travail, sans en réguler ou en contrôler l'utilisation. À ce propos, je vous propose d'écouter à votre service en date du 6 février 2024 sur France Bleu Poitou, donc sur Internet, qui montre que le numérique n'est pas l'unique solution d'apprentissage à l'école. Moi, lecteur assidu, les liseuses me gonflent. D'abord parce que c'est un écran de plus, et puis un livre, ça n'a pas besoin d'énergie pour être lu, à part mental. Un livre se met dans une bibliothèque, et une bibliothèque, c'est la culture, le voyage, le rêve, la liberté. À ce propos, voyez ce que font les tyrans aux écrivains et aux livres.
Merci Alain, je pense que le message est passé du coup.
On va en rajouter pendant des heures, mais le temps me manque.
Effectivement, le temps manque là.
Ouais, alors j'ai gardé le meilleur pour finir. L'IA, l'intelligence artificielle, ses dérives, ses dangers. Que l'on arrête de nous pomper l'air avec ça. C'est un peu tard. Trop tard. Non ? Souvenons-nous des quelques mots extraits du film de Stanley Kubrick, que je vous ne citerai pas parce qu'on a eu des problèmes techniques, mais que je vous propose de revoir 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de 1968, où déjà l'intelligence artificielle était utilisée. Et donc, il y a un pilote du vaisseau spatial, qui s'appelle Frank, qui apporte la solution contre Hal, l'IA du bord. France Gall aurait pu dire « Débranche !» Bon, je vous laisse. Je m'en vais retrouver mes bouquins dans ma grotte. J'y ai installé un vélo avec sa dynamo. Je sais, je suis une lumière.
Bravo Alain, merci beaucoup. Alors Ilan, tu as entendu Alain, il évoque entre autres son dégoût envers l'omniprésence des high-tech et leur promotion. Alors est-ce que justement il faut stopper totalement le développement des high-tech ou alors est-ce qu'il peut être compatible avec la démarche des low-tech ou de la low-tech, pardon?
Alors effectivement, les approches high-tech et low-tech sont assez antagonistes en fait dans la vision, le fonctionnement et la mise en place. En fait, c'est deux mondes qui sont complètement complémentaires. Un exemple assez éclairant et intéressant à introduire, c'est celui du solaire à concentration. En fait, en concentrant de la lumière avec des miroirs, on est capable d'atteindre des utilisations thermiques qui sont tout à fait intéressantes. Un très bon exemple, c'est celui d'Arnaud Créteau, qui est boulanger solaire en Normandie. Encore une fois. En fait, il arrive à cuire son pain à l'aide d'un four de 11 mètres carrés de miroir. C'est un modèle qui a été reproduit 14 fois en France et il est le premier boulanger solaire d'Europe. L'avantage du solaire à concentration, c'est que la limite théorique de température, c'est celle de la surface du soleil. Donc en fait, ça permet d'envisager des utilisations telles que la fusion de l'acier, du verre, de toutes sortes de métaux. Et donc pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en fait, les miroirs, en fait, on a besoin d'argent pour les faire. C'est un métal qui est sous tension, qui est polluant. Et en fait, là, la high-tech nous montre des opportunités de miroirs à base de graphène, c'est-à-dire ce qu'on retrouve sur les mines de crayons. Et donc, en fait, on peut tout à fait imaginer des miroirs qui sont faits avec des procédés très high-tech, distribués aux quatre coins du monde, et ensuite utilisés sur des utilisations très locales, maîtrisées, la cuisson du pain, la fusion de l'acier, ce genre de choses. Et en fait, sur ces exemples prospectifs, en fait, on a beaucoup d'exemples où low-tech et high-tech sont complémentaires. Le fil directeur, c'est celui de réduire les flux d'énergie et de matière, et on est tout à fait capable de le faire, allier le meilleur des deux mondes.
Eh bien, merci beaucoup pour cette précision, Ilan, pardon. Alors, je vous propose dès maintenant d'accueillir une nouvelle structure pour témoigner. Donc, c'est l'association Vent d'Ouest. Alors, elles sont trois, donc on va les interviewer depuis leur siège bien confortablement. Mais ça n'empêche qu'on peut s'envoyer un jingle pour les accueillir. Alors, bienvenue Jocelyne, Charlotte et Bénédicte. Charlotte, il y a quelques mois, vous avez reçu une bonne nouvelle. L'asso est lauréate de l'appel à projet lancé par l'ADEME Normandie. Est-ce que tu peux nous en parler, justement ?
Alors oui, tout à fait. Bonsoir à tous. On est lauréat de l'ADEME, effectivement, sur un projet low-tech. Comme l'a dit Jocelyne, la low-tech, c'était évident pour Vent d'Ouest, parce qu'on se reconnaît dans tous ses principes. Et ce projet, c'est aller vers les habitants, donc ça c'est notre spécialité. Et pendant 9 mois, on va leur proposer d'expérimenter la démarche low-tech. Donc voilà, des ateliers tous les mois de septembre 2024 à juin 2025. Et on va observer les sources d'énergie dans notre habitat. Prototyper des solutions sur la question de l'énergie. Alors l'énergie, c'est comment je me douche, comment je cuisine, comment je me chauffe, comment j'allume chez moi. Avec l'aide d'un ingénieur low-tech, on va se réapproprier le savoir-faire. Et puis on va évaluer si il y a bien des économies d'énergie, si ça nous permet d'améliorer le confort chez nous. On a passé des bons moments avec nos voisins et qu'on a envie d'aller plus loin avec eux.
Et alors là, vous êtes actuellement dans la phase où vous recherchez encore des habitants, c'est ça ?
Alors, on est tout à fait dans cette phase. D'ailleurs,
c'est le moment de lancer un appel, je crois.
Voilà, c'est ça. Si vous êtes intéressé par cette démarche, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Vendouest. Donc, c'est www.votc.fr. Et là, il y a un formulaire de contact. Vous remplissez et vous dites « Nous sommes intéressés, c'est génial, la Lotec » et on vous rappellera.
Eh bien, merci à vous, l'équipe de Vendouest. Ah, encore un dernier mot, pardon.
Un dernier mot, parce qu'il y a... alors, nous, on fait ce projet sur nos quartiers, mais on veut que, après cette expérience, eh bien, elle soit diffusée largement. Et donc, Bénédicte va...
Bonjour à tous. Bénédicte, je suis romancière, et mon implication sur ce projet-là, c'est l'idée de rendre accessible ce projet et toute la démarche qu'il y a autour au plus grand nombre. Que ça ne reste pas uniquement un projet qui reste entre les mains des participants de Vendouest, du réseau Lotec. Donc on voudrait faire une mise en récit de ce projet qui soit accessible au plus grand nombre, et on a un projet très ambitieux sous forme de bande dessinée.
Génial. Bon, c'est cohérent avec la démarche Lotec où on est open source, on documente ce qu'on fait. Eh bien là, c'est un vrai merci à l'équipe de Vendouest. Alors, cher public, j'ai l'impression que vous avez apprécié le quiz qui s'est passé tout à l'heure, donc j'ai envie de vous re-challenger. Cette fois-ci, ça sera un petit quiz sur la mobilité. C'est parti, jingle! Alors, concentrez-vous bien. Donc, ça sera un vrai ou faux. Vous levez la main si c'est vrai, vous ne levez pas la main si c'est faux. Première question. Le trolleybus, c'est un bus avec un fil électrique comme un train. Est-ce que ça existe vraiment ? Je peux répéter, j'ai bafouillé. Non, c'est bon pour vous ? Alors si ça existe, vous pouvez lever la main. Le trolleybus, donc un bus avec un fil électrique comme un train. J'ai l'impression qu'on a... Ah, c'est du 50-50, hein. C'est du 50-50. Ilan, est-ce que tu aurais éventuellement une réponse à nous apporter ?
Alors effectivement, ça paraît un peu farfelu. Un bus avec, guidé par des rails électriques, mais en fait, c'est une réalité économique. En fait, on en trouve dans 45 pays différents. Il y a plus de 300 réseaux qui sont mis en place. On en trouve au Brésil, en Suisse, etc. Donc c'est une réalité économique et ça permet d'éviter de mettre des énormes batteries pleines de métaux rares. Donc c'est très intéressant.
Bravo pour ceux qui ont répondu bon à la question, et les autres, il y a encore du boulot. Alors justement, autre question, est-ce que la voiture en bois, c'est vrai ou faux ? Vrai, vous levez la main, faux, vous ne la levez pas. Alors là, on a quelqu'un qui travaille dans le bois qui lève la main, je comprends pourquoi. Donc, on est un peu moins de vrai là que tout à l'heure. Je dirais 10-15% de la salle pense que c'est vrai. Ilan, une petite précision ?
Question, c'est plutôt est-ce qu'on peut faire tourner des voitures à bois ?
Ah, c'est ça la question, je la pose comme ça alors. Ça change quelque chose pour vous ou vous maintenez votre vote ? Non, vous maintenez votre vote, c'est très bien. Et donc, on peut reformuler la question alors.
Alors, est-ce qu'on peut faire rouler des voitures au bois ?
Oui, oui, évidemment, oui, c'est logique.
Bah alors, est-ce que ça marche ? Bon, vous avez l'air très convaincu. Alors en fait, je vais vous apprendre que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était quasi l'intégralité des véhicules qui tournaient à la méthanation du bois. C'est-à-dire en fait, on fait la pyrogazéification du bois et on fait brûler le gaz pour faire tourner les voitures. En fait, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le rationnement du pétrole a fait que quasi l'intégralité des voitures tournaient avec un gros réservoir à bois à l'arrière du véhicule.
Eh bien, merci Ilan pour ces précisions. Alors, autre question. Le transport international à la voile est-il aussi rapide que le transport au mazout ? Je vous pose la question. Vrai, vous levez la main. Faux, vous vous abstenez. Alors, ça lève quand même majoritairement la main. On y croit. On croit à la force du vent. Alors, Ilan ?
Alors effectivement, le transport à la voile, ça a été une réalité économique au début du XXe siècle. Je pense notamment au clipper allemand qui atteignait plus de 12 nœuds. En fait, c'est complètement comparable avec des navires au fioul lourd d'une centaine de mètres de long. Il y a un autre exemple qui est très éclairant et qui se trouve en Normandie, bravo. C'est l'entreprise Taut, TOWT qui transporte des marchandises à la voile à l'international. Ils sont en train de finaliser la construction d'un navire, un voilier cargo géant avec des mâts de 64 mètres de haut. À titre de comparaison, ça fait plus de 20 mètres au-dessus du viaduc de Calix. Donc c'est absolument énorme. Et en fait, ils vont faire des allers-retours depuis la Colombie, le Mexique, les États-Unis pour ramener des marchandises, faire venir du café, exporter des denrées. Et donc, il y a une réalité économique et ça marche.
Et alors, dernière question, soyez bien attentifs. Vrai ou faux, la première voiture autonome date du XXe siècle? Je le rappelle, vous levez la main si c'est vrai. Et faux, vous baissez la main. Alors, je répète la question. Vrai ou faux, la première voiture autonome date du XXe siècle? On a 1% de 3... Ah, c'est étonnant, ça, dis donc. J'ai l'impression qu'on a un peu influencé. Alors, on a 10% de réponses vraies. La réponse est...
Alors, en fait, effectivement, les voitures électriques, ça existe depuis bien plus longtemps qu'on pourrait le croire. Et en fait, les premières datent d'un peu avant le XXe siècle. Et en fait, la première voiture électrique... de plus de 150 km d'autonomie, c'est-à-dire ce qu'on faisait en 2006. Elle a été inventée en 1908. En fait, les voitures électriques, une fois qu'on les simplifie un peu et qu'on les rend plus légères, on est capable d'aller très loin.
Eh bien, bravo, cher public, vous êtes plutôt bon quand même. Bravo, bravo. Alors, puisqu'on est sur le sujet des mobilités, Ilan, est-ce que tu as un exemple en Normandie, justement, sur un projet low-tech?
Un très bon exemple, c'est celui du Wailibus, basé à Rouen. Donc, ils sont en train de développer un véhicule collectif à assistance électrique pour faire le ramassage scolaire des enfants dans la métropole de Rouen. En fait, on a quelqu'un qui conduit et en fait, on peut ramasser une dizaine d'enfants pour les emmener à l'école. Ça fait partie des projets qui fonctionnent, donc alimentés sur des batteries. Un autre exemple qui se montre beaucoup en Normandie, c'est celui du Vélio, notamment propulsé par Barnabé Chaillot que vous avez vu dans le film. Donc c'est un vélo collectif assistance électrique mais qui est auto-construit. Et donc il y a deux projets qui sont en train de se monter en Normandie, merci, sur Saint-Lô et dans l'Eure. Donc on risque de les voir passer sur les routes dans les prochains mois.
Et alors figure-toi, Ilan, qu'il y a aussi une autre association qui fait ça. Alors je crois qu'ils sont un peu utopistes, ils veulent changer tous les SUV en caisses à savon. On accueille désormais l'association Les Caisses de Gaston, s'il vous plaît. Alors bienvenue Les Caisses de Gaston. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette association, s'il vous plaît?
Oui, alors c'est une association qui a été créée en 2015. On organise une course de caisses à savon à Colombelles. Donc c'est un événement familial, sportif, ludique, culturel. Donc on a une course de caisses à savon et des animations, des spectacles toute la journée. Et donc l'objectif de cette association, c'est de sensibiliser sur les problématiques environnementales de manière ludique, puisqu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et donc voilà, après je vais laisser Romain expliquer pourquoi la caisse à savon c'est low-tech et qu'est-ce que c'est exactement.
Ah ben, elle me pique mes mots presque. Quoi de plus low-tech qu'une caisse à savon? À savoir qu'il faut un volant, des roues et une force de gravité. Pour tout le reste, il faut récupérer des matériaux, faire en sorte quand même que la sécurité soit respectée, et sinon la créativité est à vous. Voilà. Tout simplement.
Alors exactement, alors c'est du fait main et justement on a beaucoup de personnes qui souhaitent participer aux courses de caisses à savon mais qui n'ont pas le temps d'en fabriquer une. Donc l'association Les Caisses de Gaston a proposé en avant-séance aux personnes qui le souhaitaient de s'inscrire à un tirage au sort pour gagner une caisse à savon et participer le 15 juin. Alors justement, nous allons procéder à ce tirage au sort. Il y a, je de mémoire, trois équipes qui espèrent gagner une caisse à savon. Mathilde, je te laisse faire le tirage au sort pour annoncer l'équipe gagnante.
Mélange les boules.
Je vous assure que c'est bien une main innocente.
Et donc tu peux annoncer devant le micro, Ilan, qui remporte cette caisse à savon pour le 15 juin?
La team Zouave.
La team Zouave, ils sont là-haut, bravo! Bravo la team Zouave! Commentaire, la team Zouave, peut-être?
Moi j'ai envie de savoir comment elle sera décorée cette caisse à savon.
Alors ça c'est toute la question, on n'y a pas encore réfléchi, ça fait à peine 2 heures qu'on a eu l'information, donc on va se mettre sur le sujet.
Et bah, bravo à vous l'équipe Zouave, et puis bah, n'hésitez pas, le 15 juin à Colombelle, les courses de caisse à savon. Alors peut-être que vous avez un dernier mot à ajouter.
Oui, juste préciser qu'on recherche des bénévoles si ça intéresse, et notamment une green team pour accompagner les gens le jour de l'événement et les sensibiliser sur le tri des déchets. Et voilà, on est une centaine de bénévoles déjà, et c'est une ambiance très très cool.
Eh bien merci Romain, merci Mathilde, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Et alors justement, on continue de parler récup, réparation avec une nouvelle structure et la dernière de l'émission que l'on accueille, c'est la Générale Marabille. Bienvenue. La générale Marabille, personne ne connaît ici, c'est terrible. Il faut que vous nous racontiez qu'est-ce que vous faites, et peut-être même l'historique de cette association.
Je m'appelle Charlotte et c'est Aurélie à côté.
Je ne vous ai même pas présenté. Pardon, Charlotte et Aurélie.
Bon, on est assez autonomes. du coup, la Générale Marabille, depuis 2015, ouais, plus proche.
Ouais,
je
veux bien, merci.
Ok. Tu veux le faire ?
Oui.
Bah, allez, vas-y. Oui, du coup, la Générale Marabille existe depuis fin 2015. C'est une association qui a été créée à la base par à l'initiative de Arnaud Cotebrune, qu'on doit citer de temps en temps, parce qu'il a beaucoup fait pour la maison du vélo, tout ça. Donc, on existe depuis 2015. On fait un atelier par mois tous les samedis après-midi, le samedi après-midi, et ici au Café des Images. Trois fois par an, le dimanche. On doit être à 2000 adhérents depuis le début, du coup. Et puis, voilà, c'est des bons moments, on répare plein de choses. Voilà.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe. Si moi, par exemple, j'ai un grille-pain qui ne marche pas, je me rencarde sur votre site et j'arrive avec mon grille-pain.
Du coup, on est vraiment de plus en plus en économie de temps parce qu'on est tous bénévoles. Donc, il y a plus que. Enfin, c'est sur Facebook, il faut aller regarder sur la page Facebook. Et du coup, les dates sont mises au fur et à mesure. Donc, vous venez avec votre petit grille-pain et puis vous payez une adhésion à prix libre pour pouvoir accéder au plateau technique. Et puis là, vous démontez avec un technicien, essayez de réparer, voir si c'est possible ou pas. Et si c'est réparé, la cerise sur le gâteau, tout le monde applaudit. Et voilà.
On applaudit comment ? Comme ça, c'est ça ?
Exactement.
Et alors, est-ce qu'il y a un pourcentage de réussite ou pas, peut-être à donner ?
C'est à peu près le même pour tous les répares café, c'est entre 60 et 80%, donc 70% à peu près de réussite à chaque fois. Donc ça vaut le coup, venez avec vos objets et puis vous repartirez avec des nouvelles compétences. Comme il l'expliquait dans le film, c'est vraiment ça, c'est passer un moment convivial et démystifier la réparation. Tout est démontable. Et beaucoup de choses sont réparables avec très peu de connaissances. Donc voilà. Et je voulais juste dire pour le Facebook, vous pouvez y aller, même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez consulter la page et on met des dates et je peux vous donner les prochaines quand tu veux.
Eh bah, ben, tu sais quoi, vas-y, balance-les maintenant, tant qu'à faire.
Donc les prochaines, ça va être le 13 avril à Bretteville-sur-Odon, de 14h à 18h. Ensuite, c'est le 25 mai à Cormel-le-Royal, de 13h30 à 17h30. Le 9 juin au Café des Images, donc ici. Le 23 juin à Moult. Ça, c'est la première fois, je crois, qu'on y va. Et puis, vous pouvez venir avec tout objet du moment qui tient dans votre main. Vous pouvez l'amener. N'amenez pas de machine à laver, c'est pas la peine. On en a aussi la plupart du temps un coin couture, parce que c'est aussi réparer le textile. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ?
Juste pour ajouter, il y a aussi l'Artify qui vient avec nous, donc qui répare principalement des ordinateurs. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir cette possibilité.
Mais ne venez pas avec votre imprimante, même si lui l'a fait dans le film. Ouais. C'est 1% de réussite, franchement.
Ça vaut pas le coup.
Désolé, nous, on n'a pas ces compétences, ces compétences-là. Voilà. Ouais. Mais sur le reste, voilà. Quand l'Artify est là, la couture.
Ou informatique et les petits électroménagers, quoi.
Alors peut-être que tu as le micro dans tes mains, Juliana, peut-être que vous avez des objets dans la salle et vous ne savez pas si c'est réparable ou pas, n'hésitez pas à vous manifester, lever la main et poser la question justement si c'est réparable ou pas. Ou même, puisqu'il nous reste à peine 10 minutes d'émission, si vous avez des questions à poser à la Générale, à Ilan, n'hésitez pas, sur la low-tech, ou même des questions très personnelles, c'est possible aussi, il va y répondre. Alors, est-ce qu'on a des questions peut-être plus générales sur la low-tech dans l'Assemblée ? Je vois que tout le monde baisse les yeux, donc visiblement, non. Une petite question à droite, à gauche, ou peut-être que quelqu'un mène un projet sur la low-tech en ce moment et aimerait en parler, ou aimerait adhérer à une des assos qui s'est présentée, ou à des réflexions suite au documentaire qu'il a vu, ou alors un mot sympathique pour m'aider parce que je suis en train de galérer à meubler, là. Ah, merci, nous avons quelqu'un là-bas.
Bonsoir à tous et à toutes. J'essaie de caler le micro. Moi, j'essaie de m'intéresser beaucoup à la diminution du chauffage dans la maison et de la ventilation ou de la climatisation, mais c'est pas encore trop le problème en Normandie. Et donc, je suis beaucoup le projet Slow Heat. Donc, l'objectif, c'est de diminuer le chauffage. C'est le principal poste de consommation d'énergie dans les maisons. Et les Belges ont initié une super démarche que vous pouvez retrouver sur le site Slow Heat, où ils répertorient toutes les initiatives pour changer un peu nos habitudes, nos façons de nous habiller, la façon de vivre et d'accepter de plus en plus de descendre les températures. Donc d'arriver à des 15 degrés dans une maison avec un taux d'humidité contrôlé et des apports d'énergie à quelques endroits spécifiques, par exemple dans une position de travail sur un bureau, un petit chauffage de main sous le clavier de l'ordinateur et la souris, ça reste. Ou alors des petits pédaliers qu'on met sous la table de bureau pour maintenir une activité physique et du coup générer une bonne circulation sanguine. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça. Et s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ça, ben, n'hésitez pas aussi à venir faire des coucous et partager ça.
Eh bien, merci pour ton intervention, François. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ?
On a un super magazine, le Low-Tech Journal, et il est quand même imprimé en Normandie. Voilà.
C'est bien d'en parler quand même, c'est vrai. La Normandie, fer de lance du Low-Tech. Ah, on a une autre question là-bas. Mathilde, des caisses de Gaston.
C'est juste pour continuer dans les initiatives. On a aussi Normandie, la plateforme Normandie Économie Circulaire, NECI, sur laquelle il y a une carte des initiatives, et donc vous retrouverez plein d'initiatives normandes, de projets, d'entreprises, d'associations, etc. Donc, c'est pas que de la low-tech, c'est économie circulaire, mais ça peut être inspirant. Et attendez 2 semaines, parce que la nouvelle plateforme va sortir dans 2 semaines.
Eh bien, merci beaucoup, Mathilde. Est-ce qu'on a une dernière intervention dans l'Assemblée ? Oui, une nouvelle là-bas. Allez, on encourage Juliana qui court et qui traverse le Café des Images. Elle arrive. Oui, oui, oui.
Moi, ce serait plutôt du coup une question pour Ilan. Est-ce qu'il va se passer quelque chose sur le low-tech en Normandie, création d'une structure, ou est-ce que ça sera toujours... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, à part, bien sûr, l'événement d'année prochaine, enfin, qui arrive là, sur la grande rencontre ?
Merci beaucoup pour cette passe décisive. Alors effectivement, le réseau low-tech est en train de se structurer, de se formaliser, mais en fait il y a déjà tout un tas d'événements qui sont déjà en place en Normandie. Je pense notamment à beaucoup de festivals l'été, les Pluies de Juillet, Chauffer dans la Noirceur. Il y a un festival qui est également très connu plutôt de l'autre côté de la Seine, à Rouen, le festival des Vagabonds de l'énergie qui s'appelle Chemin de Travers, qui a lieu la première semaine d'octobre, que je vous recommande chaudement. Il y a d'autres événements beaucoup plus professionnels qui sont aussi en train de s'organiser. Alors, pas forcément à destination du grand public, mais ce sera l'occasion de parler chaîne d'approvisionnement, valeur ajoutée, nouvelle économie, usine distribuée, et j'en passe. Voilà, c'est en train de se structurer. Suivez bien, parce que bientôt, ça va commencer à communiquer sur les plateformes. On est en train de se mettre en place.
Eh bien, merci beaucoup, Ilan. Alors, peut-être que tu étais tellement bien parti, je te laisserai bien faire l'avant-dernier de mot de la fin avant de laisser la parole à Juliana. Non, je dirais le mot de la fin, alors, si tu veux. Un petit mot, peut-être, pour terminer sur la démarche low-tech dans sa globalité et puis sur ce qui se passe en Normandie.
Tâche assez difficile parce que le sujet est très vaste. Je pense que vous l'avez senti dans la low-tech. En fait, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles façons de voir le monde, un autre paradigme, comment on s'organise différemment, comment on reprend le contrôle sur notre environnement et les techniques. Ça fait beaucoup réfléchir les professionnels, ça questionne les citoyens. On peut tout à fait tirer de nouveaux récits et avancer vraiment vers une transition qui soit juste et qui est désirable. Et vive la low-tech. Et la Normandie.
Merci beaucoup, Ilan. Bravo, bravo. Très bon ambassadeur des low-tech. Et donc, alors cette émission, si vous avez envie de la réécouter après l'avoir vécue, n'hésitez pas à écouter sur Station B jeudi entre 19h et 20h, ou sinon lundi prochain sur Radio Pulse, pareil, entre 19h et 20h. Et sinon, il y aura un podcast qui sera diffusé sur le site du Café des Images et de Station B, avec, comme je le disais tout à l'heure, toutes les sources qui ont été citées. On a eu énormément de références, beaucoup d'inspiration, donc n'hésitez pas à vous retrouver sur ces différentes pages pour aussi y trouver votre compte. Merci au Café des Images. Peut-être du coup le mot de la fin pour toi, Juliana.
Merci surtout à vous, merci à Thomas Mignon, animateur du Média Lab, merci à Maxence à la technique, merci à David et Alain pour leur chronique, merci à toutes les associations présentes, et surtout